Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Continuité, Caribou et Togo. Au programme, une nouvelle loi attendue de pied ferme, gloire à la crème de cassis et super aliments ou super marketing. Bonne écoute!
Une nouvelle loi attendue de pied ferme. Une chronique de René Genet, parue à l'été 2023 dans le magazine Continuité. La chronique Point de mire reflète la position d'Action Patrimoine dans certains dossiers chauds. Cet été, elle s'intéresse à la loi sur les lieux historiques du Canada qui sera adoptée sous peu. Au Canada, chaque palier de gouvernement a un rôle à jouer dans la protection du patrimoine bâti et des paysages culturels. Du côté du gouvernement fédéral, cette responsabilité relève plus particulièrement du ministre de l'Environnement et du Changement climatique. En décembre dernier, notre organisme a d'ailleurs interpellé celui qui occupe présentement ce poste, Stephen Guilbeault, afin de déplorer la démolition du pavillon de thé situé au lieu historique national du manoir Papineau à Montebello. Ce bâtiment était sous la gestion de Parc Canada, qu'il a jugé trop dégradé pour le conserver. Dans le domaine du patrimoine, Parc Canada est généralement reconnu comme un chef de file au pays. L'agence fédérale a mené plusieurs projets de restauration exemplaires au fil des ans, et ce, en s'assurant de respecter les plus hauts standards de conservation au niveau national, notamment ceux imposés par le document « Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada ». La démolition du pavillon de thé en a donc pris plusieurs par surprise. Cet événement montre que la conservation du patrimoine doit être renforcée au niveau fédéral. En 2017, le Comité permanent de l'environnement et du développement durable a fait un constat similaire. Composé d'élus de différents partis politiques fédéraux, ce comité a notamment signalé que le Canada est le seul pays du G7 à ne pas avoir de loi pour protéger les lieux historiques qui relèvent de sa compétence. L'année suivante, le vérificateur général du Canada a également tiré la sonnette d'alarme et a souligné que certains ministères fédéraux et Parcs Canada ne posaient pas toutes les actions nécessaires pour conserver leur patrimoine. Dans ce contexte, le milieu de la conservation s'est réjoui lorsque le ministre Guilbeault a déposé, en juin 2022, un projet de loi visant à répondre à plusieurs de ses préoccupations. Intitulé « Loi sur les lieux historiques du Canada », cette nouvelle législation devrait entrer en vigueur au cours des prochains mois. Plusieurs éléments positifs sont à souligner, mais force est d'admettre que ce projet de loi pourrait être amélioré d'ici son adoption finale. L'importance d'aller plus loin. D'entrée de jeu, mentionnons brièvement quelques bons coups de la future loi. Premièrement, elle donnera une portée légale aux principales mesures, politiques et stratégies mises en place au fil des ans par le gouvernement fédéral pour protéger le patrimoine sous sa responsabilité. Elle facilitera aussi l'accès à l'information grâce à la création d'un registre public des lieux historiques possédés ou gérés par le gouvernement fédéral. Cet outil permettra notamment de connaître la condition des biens et les interventions prévues sur ceux-ci. Finalement, la loi garantira une meilleure représentation des Premières Nations, des Inuits et des Métis au sein de la Commission des lieux et monuments historiques et assurera une meilleure reconnaissance de l'héritage de ces communautés. Dans l'ensemble, ces propositions constituent des avancées intéressantes pour assurer une meilleure protection du patrimoine au pays. Il faut toutefois mentionner que la mouture du projet de loi proposé en 2022 en a laissé plusieurs sur leur faim. C'est pourquoi de nombreux experts et organismes en conservation, dont Action Patrimoine, ont uni leur voix afin de demander au gouvernement de produire un texte de loi final plus ambitieux. Mené par la Fiducie nationale du Canada, ce groupe pan-canadien a formulé, en début d'année, plusieurs recommandations pour y parvenir. Certaines d'entre elles font directement écho à des problématiques vécues au Québec au cours des dernières années. Le groupe a notamment demandé au gouvernement de renforcer les mesures de surveillance de l'état des édifices patrimoniaux et ce, afin de prévenir la négligence et le manque d'entretien. Par exemple, la production d'un rapport annuel sur l'état du patrimoine fédéral obligerait le gouvernement, ses ministères et ses agences à rendre des comptes sur une base régulière aux élus du Parlement et au grand public. Le groupe a également proposé de créer un nouveau mécanisme permettant aux citoyens, aux collectivités et aux organismes intéressés de se faire entendre auprès des instances gouvernementales lorsque des enjeux en patrimoine les interpellent. De telles mesures préventives auraient peut-être permis au pavillon de thé de Montebello de connaître un sort différent. Cet événement a mis en lumière des lacunes dans le suivi de Parcs Canada à l'égard de son patrimoine. Un rapport sur l'état du lieu, produit en 2011, soulignait l'urgence de restaurer la petite construction, dont les origines remontaient à l'époque de Louis-Joseph Papineau. La dégradation s'est néanmoins poursuivie et, au début de 2022, la structure du bâtiment a été sévèrement endommagée lors d'une tempête. C'est à la suite de cet incident que Parcs Canada a choisi de procéder à sa démolition. Il est difficile de savoir si l'application des recommandations du rapport de 2011 aurait permis à ce bâtiment patrimonial de résister aux intempéries. Il n'empêche que sa disparition a été déplorée par des élus et des sociétés d'histoire de la région. Ces derniers ont en outre été prévenus seulement quelques jours avant la démolition, se retrouvant pratiquement devant le fait accompli. Vous écoutez une nouvelle loi attendue de pied ferme, une chronique de René Genet parue à l'été 2023 dans le magazine Continuité. Parmi ses autres recommandations, le groupe mené par la Fiducie nationale a suggéré d'accroître le nombre d'entités fédérales soumises aux nouvelles mesures législatives. Bien que tous les ministères fédéraux et leurs agences soient concernés, les sociétés d'État en sont, quant à elles, exemptées, excepté pour la commission de la capitale nationale dans la région de Gatineau et d'Ottawa. Le groupe considère que d'autres sociétés telles que Poste Canada et Radio-Canada devraient également être incluses. Les phares fédéraux considérés comme excédentaires ne semblent pas non plus visés par cette nouvelle loi. Rappelons qu'en déclarant un phare comme étant excédentaire, le gouvernement se libère de nombreuses obligations de conservation. Ce faisant, plusieurs de ces édifices sont entretenus de manière minimale et se dégradent, et ce, même si certains d'entre eux ont une valeur patrimoniale exceptionnelle. La démolition du pavillon de thé de Montebello a mis en lumière des lacunes dans le suivi de Parcs Canada à l'égard de son patrimoine. Action Patrimoine est d'ailleurs préoccupée depuis plusieurs années par l'état de l'un de ses phares, soit celui du Cap des Rosiers en Gaspésie. Construit en 1858, il s'agit du plus haut bâtiment de ce type au pays. Son histoire et ses qualités architecturales uniques lui permettent d'être l'un des rares phares canadiens à bénéficier à la fois des désignations de lieu historique national et d'édifice fédéral du patrimoine classé. Malgré ces deux reconnaissances, Pêche et Océan Canada l'a déclaré excédentaire et le bâtiment ne cesse de se dégrader. Depuis longtemps, un groupe de bénévoles impliqués dans l'animation et la mise en valeur du site sonne l'alarme sur les dangers qui pèsent sur cette construction exceptionnelle. Finalement, mentionnons que la Fiducie nationale et ses partenaires demandent au gouvernement d'assurer une meilleure protection des bâtiments qui quittent la propriété fédérale. la vente ou la cession d'un édifice appartenant au gouvernement, à ses ministères ou à ses agences devrait être accompagnée d'un engagement du nouveau propriétaire de poursuivre les efforts de protection. Les compagnies ferroviaires sous juridiction fédérale peuvent se plier à une telle mesure lors de la vente d'une gare patrimoniale, mais cela n'est pas obligatoire. C'est pourquoi nous croyons que la loi sur les lieux historiques du Canada devrait obliger toute entité, qu'elle soit privée ou publique, à préserver et à mettre en valeur une gare patrimoniale qu'elle acquiert. Le cas de la gare patrimoniale de Mont-Laurier, dans les Laurentides, montre la pertinence d'une telle demande de mesures de protection. Ancien terminus du chemin de fer Le Petit Train du Nord, cette gare est la propriété du ministère des Transports du Québec depuis les années 1990. N'étant pas une propriété fédérale ou d'une compagnie ferroviaire, elle ne bénéficie d'aucun statut de protection, malgré sa valeur historique indéniable. Ce dossier préoccupe Action Patrimoine depuis plusieurs mois, car le gestionnaire actuel du bâtiment, la MRC d'Antoine Labelle, envisage de le démolir plutôt que de réaliser les travaux nécessaires à sa restauration. Il existe toutefois des exemples de bonnes pratiques en préservation, comme la gare du Canadien Pacifique à Shawinigan, devenue propriété municipale en 2017 et citée par la ville lors de son achat. Ce statut lui confère donc une protection municipale. Des efforts qui devront se poursuivre. La loi sur les lieux historiques du Canada, si elle est adoptée avec les recommandations mentionnées précédemment, offrira au patrimoine fédéral une protection légale attendue depuis longtemps. Elle garantira la pérennité de centaines de lieux historiques et d'édifices fédéraux, en plus de permettre une plus grande reconnaissance de l'héritage des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Il faut toutefois garder à l'esprit que cette nouvelle loi ne visera pas les lieux historiques nationaux de propriété privée, qui représentent plus des trois quarts de tous les lieux historiques nationaux reconnus par le gouvernement fédéral. Au cours des prochaines années, d'autres stratégies devront donc être mises en œuvre pour mieux protéger ce patrimoine, notamment de nouvelles stratégies financières et fiscales pour encourager la restauration et la réutilisation des bâtiments anciens privés. Ce travail est nécessaire pour faire du Canada un exemple dans la gestion, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national. C'était Une nouvelle loi attendue de pied ferme, une chronique de René Genet, parue à l'été 2023 dans le magazine Continuité. Du cassis. Un texte de Virginie Landry, paru le 22 mai 2023 dans la revue Caribou. Exit l'Aperol Spritz. Cette année, c'est un kir royal qu'on veut boire en terrasse. Le retour en force de ce classique cocktail français est en grande partie attribuable à la série Emily in Paris, diffusée sur Netflix l'automne dernier. Dans une scène devenue instantanément populaire, la protagoniste trinque avec cette boisson rosée composée de champagne et de crème de cassis lors d'un brunch. C'en fut assez pour susciter un intérêt pour le kir royal partout dans le monde. Un engouement qui se ressent jusqu'à l'île d'Orléans, chez Cassis Mona et Fille. Anne Mona, copropriétaire de l'entreprise qui cultive et transforme le cassis en de nombreux produits, n'avait pas réellement besoin d'Emily in Paris pour faire parler de sa crème de cassis, ni pour attirer les visiteurs à sa boutique située à Saint-Pierre. Produit phare de Cassis Mona et Fille, la crème de cassis est aussi son meilleur vendeur année après année. Ayant remporté une multitude de prix à l'étranger, sa fameuse liqueur de fruits jouissait déjà d'une réputation enviable. Toutefois, depuis quelques mois, quand elle mentionne le nom de la fameuse série Netflix, les gens sont si excités qu'ils poussent des cris stridents, raconte Anne en riant. « Dans mon équipe, l'engouement est palpable », assure-t-elle. « Nos employés nous disent que, lorsqu'elles reçoivent pour le brunch, elles servent maintenant le kir royal à leurs invités. » Et si certains visiteurs chez Cassis Mona et Fille ne connaissent pas la crème de cassis, ils savent désormais ce qu'est le kir royal. Merci, Émilie. De Dijon à l'île d'Orléans. Il faut savoir que la crème de cassis et le cocktail qui l'a rendu populaire est originaire de Dijon, dans la région de Bourgogne, en France. C'est un digestif à base de cassis, qu'on appelle parfois gadelle noire au Québec. Créée dans les années 1840, la crème de cassis ne deviendra à la mode qu'en 1950, quand Félix Kir, alors maire de Dijon, sert dans ses réceptions officielles une boisson composée de la liqueur de fruits et de bourgogne à ligoter, un vin blanc sec. Rapidement, la popularité de ce cocktail se propage en France et se décline en plusieurs recettes, dont le kir royal, qui, lui, est fait à partir de champagne ou de vin mousseux. Il est encore aujourd'hui parmi les apéritifs préférés des Français. Si les Québécois ne l'ont pas encore adopté, c'est parce qu'on ne s'offre pas la chance de boire des bulles assez souvent, croit Anne Mona. Les bulles, ce ne sont pas que pour les grandes occasions, insiste-t-elle. Et puis, autrement que combiné avec du champagne ou du mousseux, la crème de cassis se déguste de plusieurs façons. L'onctueuse liqueur de fruits couleur rubis, au goût acidulé et légèrement sucré, est un ingrédient passe-partout pour les mixologues, même les plus amateurs. En effet, selon Anne Mona, la crème de cassis peut s'ajouter à tout cocktail. C'est facile à utiliser. On en verse une touche dans son gin tonic, son mojito, son whisky même. Ça s'utilise en toute simplicité, pas besoin de recette. La crème de cassis peut aussi se boire seule avec des glaçons, pourvu qu'elle soit fraîche et de bonne qualité. Ce qui fait une bonne crème de cassis, c'est son goût prononcé de fruits, admet Anne Mona. Sur l'île d'Orléans, la famille Mona fait pousser plusieurs variétés de cassis, dont le Titania et le Ben Lomond, chacune utilisée pour différents produits. Ce ne sont pas tous les producteurs qui utilisent la même variété de cassis, explique Anne Mona. Donc, toutes les crèmes de cassis n'ont pas les mêmes parfums. C'est comme un cépage dans le vin. À la ferme, comme à Paris. Pour en revenir à Emily in Paris, Anne Mona croit que la saison estivale prouvera encore plus l'influence que la télésérie aura eue sur la popularité de son produit vedette. Dans tous les cas, chez Cassis Mona et Fille, qui est d'ailleurs nommé au laurier de la gastronomie québécoise dans la catégorie tourisme gastronomique, on compte bien profiter de l'engouement pour créer une expérience particulière pour les visiteurs. En effet, on y prépare un panier, un genre de kit apéro parfait, confirme Anne. Il contiendra, entre autres gourmandises, une petite bouteille de crème de cassis, des bulles québécoises format mini, des grignotines salées et sucrées, une jolie nappe et d'autres surprises. Les gens pourront se procurer ça à la boutique sur notre ferme et s'installer sur notre terrain et célébrer l'amour, l'amitié, les vacances. On a très hâte à tout ça. Suggestion d'Anne Mona. 4 alcools québécois à essayer avec la crème de cassis. Mousseux, l'intégral du domaine Bergeville. Mousseux de sève d'érable, mousse des bois du domaine à serre. Vin de miel pétillant aux marques de pommes Golden Bees de Desrochers D. Cidre pétillant brut de la cidrerie du Minot. C'était Gloire à la crème de cassis, un texte de Virginie Landry paru le 22 mai 2023 dans la revue Caribou. Super aliment ou super marketing? Un texte de Stéphanie Côté paru le 30 mai 2023 dans To Go. Le mot super aliment n'est pas défini et encore moins réglementé. Il est toutefois très populaire, trop même. La nutritionniste Stéphanie Côté rétablit les faits. Qu'est-ce qu'un super aliment? Superaliment est une étiquette attribuée à un aliment qui a une grande valeur nutritive et qu'on tente de faire passer pour magique pour la santé. Le chou frisé, kale, le curcuma, les graines de chia, la baie de goji, le chocolat noir, par exemple, qui sont riches en antioxydants ou en bons gras oméga-3, ont tous eu leur heure de gloire au panthéon des superaliments. On veut croire au miracle. Dire des aliments qu'ils ont une bonne valeur nutritive ne semble pas assez. On leur attribue des vertus parce que ça nous fait du bien de croire qu'ils peuvent être anti-cancer ou anti-vieillissement. La santé et la jeunesse éternelle nous ont toujours fait rêver. Le concept de super-aliment comporte des risques, car il incite à manger certains aliments à répétition au détriment de la variété et parfois même du plaisir. Non, le curcuma n'est pas bon dans toutes les recettes. La fascination pour certains aliments nous fait oublier la plus grande certitude en nutrition. Une alimentation variée et équilibrée est une approche reconnue pour favoriser la santé et prévenir les maladies. Ça, c'est sans compter que le statut de super-aliment fait monter les enchères. Un prix cher payé pour des promesses exagérées. Exagération et déformation. Pourquoi y a-t-il régulièrement de nouveaux aliments qui remportent le titre de super-aliment? D'abord parce qu'il y a des modes. On apprécie toujours la nouveauté qui alimente les discussions. Savais-tu la dernière? J'ai entendu dire que... Et même, je sais ce qui peut régler ton problème. Surgissent ça et là. Aussi, les scientifiques font régulièrement des découvertes sur les effets potentiels de tel antioxydant, de telle vitamine, de telle fibre, tel bon gras, etc. Il arrive souvent de voir des journaux et autres médias, ainsi que des entreprises alimentaires, utiliser les résultats des études à leur avantage. Un titre accrocheur, un argument de vente sensationnel, c'est vendeur. Le problème est que ça se fait de manière précipitée et exagérée. Ça devient de la mésinformation. Les allégations des super-aliments ne sont pas appuyées par la science. C'est une lubie. Des clics et des j'aime. Les médias sociaux engagés dans des combats de clics contribuent à la popularité et au mythe des super-aliments plus efficacement que les médias traditionnels ne l'ont jamais fait. Les influenceurs et influenceuses qui partagent leurs secrets, santé et beauté attirent l'attention. Gwyneth Paltrow a de la concurrence. Ces vedettes des réseaux sociaux ne sont pas spécialistes en alimentation et, pourtant, ce sont de véritables gourous modernes. Une vidéo pour présenter leur cure au jus de céleri devient virale et cela suffit à faire passer ce légume au rang de trésor national, avec son prix qui augmente en conséquence. L'alimentation, un super travail d'équipe. Aucun aliment ne garantit la santé. Bien sûr, il y a des aliments plus nourrissants que d'autres, mais pas de là à leur accorder des vertus miraculeuses, ni même leur accorder une place démesurée dans votre alimentation. Du chou frisé, kale, c'est bon. Mais mangez du chou à tous les repas au détriment d'autres légumes et vous aurez de sérieuses carences. Chaque aliment a ses forces. Aucun n'est complet. Les aliments font un travail d'équipe, comme pour une équipe de sport. Elle a beau avoir le meilleur gardien ou la meilleure gardienne de la ligue, elle ne fera pas les séries si cette personne est seule sur le terrain. L'interaction entre les aliments, comme entre des joueurs et joueuses, est encore plus bénéfique que les qualités individuelles prises isolément. L'idée est bien sûr de privilégier des aliments nutritionnellement intéressants si on veut une équipe gagnante pour sa santé. D'un point de vue nutritionnel, c'est la meilleure formule. Point de vue goût aussi, parce que varier les saveurs, les textures, les couleurs renouvellent le plaisir de manger bien mieux que si on mange toujours la même chose. Manger du chou frisé, kale, du curcuma, des graines de chia, des baies de goji et du chocolat noir si vous en avez envie. N'espérez pas de miracle de leur part, cela dit. Car des super-aliments, ça n'existe pas. Des aliments super intéressants, ça, oui. C'était « Super-aliments ou super-marketing », un texte de Stéphanie Côté, paru le 30 mai 2023 dans To Go.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.